Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Aujourd'hui, nous accueillons François Guinaud pour réfléchir à la place du progrès dans notre civilisation européenne. C'est l'un des sujets de son dernier livre, « La puissance et la peur », paru aux éditions du Cerf. Cet ouvrage se présente comme une vaste fresque. Il raconte comment notre civilisation s'est élaborée dans la recherche, parfois chaotique, d'une harmonie entre sa raison d'être et ses avancées techniques et scientifiques. Il montre comment la progression des savoirs s'est accompagnée de notre humanisation. Mais aujourd'hui, le doute et la peur ont envahi notre société. L'Europe se tient en retrait au lieu de rayonner. Quelles sont les voies possibles pour l'avenir ? François Guinaud est le président honoraire de l'Académie des technologies. Il a travaillé au plus haut niveau dans de grandes entreprises de chimie comme Rhône-Poulenc ou Biomérieux. Bonjour.
Bonjour.
Dans votre titre, il y a le mot peur, la puissance et la peur. Mais ce qui frappe d'abord en lisant votre livre, c'est un émerveillement devant les capacités d'invention de l'homme depuis les origines et déjà les temps préhistoriques.
Oui, je pense que l'homme se construit en inventant, que les sociétés se construisent en inventant, et ça n'est pas propre à notre civilisation européenne. Ce qui lui est propre, sans doute, c'est les relations intimes qu'elle a maintenues, développées dans toute son histoire, entre les savoirs et les raisons d'être qui l'animaient. Et ça, c'est très intéressant à suivre, avec beaucoup de, vous l'avez dit, de choses un peu chaotiques. On n'a pas été des génies en permanence, loin de là. Et notamment, si nous avons d'emblée découvert la science grâce aux Grecs, pendant des siècles et des siècles, la science et la technique ont été dramatiquement séparés. C'était deux mondes différents qui conduisaient à des sociétés très stratifiées où les uns et les autres ne se mêlaient pas. Et puis, la deuxième chose, c'est effectivement des périodes de grande unité. On parle de l'unité de la raison et de la foi pendant plus de 10 siècles de chrétienté. Puis la rupture entre la raison et la foi, au moment même où on est en train de ressouder enfin la science et la technique. Donc tout ça, il y a beaucoup de chaos, mais effectivement, elle a développé, et on le voit bien, elle a développé les sciences expérimentales, et à partir donc du XVIe siècle, puis les technologies à partir du dernier siècle. Et ça lui a conféré une puissance d'intervention sur le monde absolument considérable. Et ça lui a fait aussi, ça l'a conduit à penser qu'au fond, elle était celle qui devait conduire et orienter l'ensemble du monde.
Alors, vous vous inscrivez dans une très longue histoire. Vous commencez, nous en avons parlé à la préhistoire, vous arrêtez assez longuement sur la révolution néolithique et puis vient le moment grec, la naissance de la science. Pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté de façon particulière sur ce moment-là? Qu'est-ce qui apparaît et qu'est-ce qui nous humanise à ce moment-là?
La révolution néolithique est fondamentale. C'est le refus de subir les injonctions de la nature. Et ce refus de subir, il est propre à peu près toutes les civilisations. Et c'est un magnifique moment, parce que refuser de subir, c'est affirmer sa liberté. Et c'est ce qui distingue l'homme de la plupart des autres êtres vivants. Donc c'est un acte fort, mais assez vite, dans la civilisation dite européenne aujourd'hui, les Grecs vont apporter quelque chose de nouveau. Et ils vont apporter cette recherche de l'intelligibilité du monde en arrivant à faire en sorte qu'on puisse traduire des phénomènes en mathématiques. Et je donne, je crois, l'exemple, parce qu'il me plaît beaucoup, de M. Pythagore, qui est le premier à lier les notes musicales avec la longueur d'une corde qui vibre. C'est une immense première, c'est une immense première. Et on peut y voir effectivement l'un des points de naissance de la science telle qu'on la conduira après.
C'est donc le primat de la raison. Oui. L'époque romaine vous semble moins intéressante d'une certaine façon.
Grand Dieu.
On pousse les technologies à leur perfectionnement. Mais pour la science.
Ah oui. Alors là, je suis assez d'accord pour ce que vous venez de dire, en cela que les Romains ont hérité des Grecs la science, mais ils ne l'ont pas vraiment développée. Au point d'ailleurs que pendant tout l'Empire romain, la langue dans laquelle on exprimait la science était le grec. Mais parallèlement, par contre, ils avaient des ingénieurs absolument remarquables. Et si 2000 ans après, on en trouve des traces monumentales et parfois d'un grand esthétisme, c'est bien qu'ils avaient des capacités techniques absolument extraordinaires.
Vous insistez aussi sur une notion importante et qui revient tout le temps dans votre livre, c'est celle de la raison d'être d'une civilisation. La raison d'être de Rome, c'est la grandeur de Rome.
C'est la grandeur éternelle de Rome, oui. Alors, les Romains se projettent assez loin dans le temps, et ça va quand même durer, grosso modo, 10 siècles. Mais il y a une rupture, et la grande rupture, c'est effectivement l'arrivée du monde judéo-chrétien, qui fiche tout par terre, parce que jusqu'ici, à Rome comme ailleurs, les dieux, ce sont les hommes qui les avaient inventés. On les nommait, on leur donnait une image. D'un seul coup, ces dieux ne sont plus dans la nature. Arrive un dieu dont on n'est même pas fondé à dire le nom, parce que ça serait participer à son essence et c'est impossible. Donc le dieu des Juifs est en rupture totale avec le panthéon romain. Et ce dieu, il n'est pas dans la nature. Et je crois que c'est ça aussi qui fait une immense différence. Il n'est pas dans la nature. Il a créé le monde, mais il n'est pas dans le monde. On ne peut pas discuter avec lui comme on discute avec Vénus ou avec Isis ou je ne sais qui. Il est ailleurs, mais, et c'est ça la révolution, à mon avis, judéo-chrétienne, c'est que ce Dieu, créateur du monde, crée une alliance avec l'homme. C'est la première fois qu'on voit ça. Les dieux, jusque-là, ils ne faisaient pas d'alliance avec les hommes. Là, il fait une alliance avec le peuple d'Israël. Et si le peuple d'Israël travaille avec lui à améliorer le monde, eh bien, tout va bien. Sinon, ça ne va pas très bien. Voilà.
Et une autre raison d'améliorer le monde, c'est que la perception du temps change complètement. Le temps n'est plus cyclique. Linéaire et cela ouvre la possibilité du progrès.
Vous avez mille fois raison d'insister là-dessus. Tout le monde antique vivait dans cette notion du temps cyclique, chacun l'adaptant. Alors chez les uns, c'est 12 000 ans par cycle, etc. Là, il n'y a plus de temps cyclique. Il y a un début, la création. Et il y aura une fin des temps. Alors à partir du moment où vous inscrivez dans une temporalité qui a un début et une fin, c'est plus du tout la même chose que d'être dans un temps cyclique où chaque chaque fois que les astres se remettront dans telle conformation, les choses seront comme avant et se répéteront comme avant. Là, ce n'est pas du tout ça. Et avec l'alliance avec Dieu, si on veut améliorer le monde, eh bien, il faut s'inscrire dans ce temps et ne pas attendre la fin des temps pour le faire. Je résume un peu trop.
Et alors, cela nous entraîne dans la chrétienté médiévale qui, elle, va choisir, notamment au moment de la réforme grégorienne, de s'engager dans le monde, d'agir dans le monde. Pour vous, c'est un moment très important, justement, pour le développement des innovations.
Oui, on est obligé d'aller vite. Bien sûr, on est obligé d'aller très vite pour passer du judaïsme au christianisme, qui sont complètement liés, effectivement. Mais le christianisme apporte effectivement une dimension humaine à la divinité par l'incarnation, ce qui est très important aussi. Alors effectivement, du temps de saint Augustin, ma foi, les temps sont difficiles et on essaie de se mettre en conformité avec cette intelligence supérieure qu'est la divinité. On doit se préparer à la rencontrer un jour, à la fin des temps. Et puis, on se rend compte que 1000 ans sont passés bientôt, au moment dont vous parlez, qui est la réforme grégorienne. 1000 ans sont passés et on ne voit pas le retour du Christ. Donc, 1000 ans qu'il faut comparer à 3000 ans, qui était la durée supposée du monde dans tous les textes. Donc 1000 ans, ça commence à faire beaucoup. Et donc l'idée, c'est de dire, bon, ben écoutez, le monde est trop mauvais pour que le Christ revienne, il faut qu'on l'améliore. Donc l'Église, à ce moment-là, qui est la seule institution qui est vraiment ramassée, j'allais dire, les débris des institutions romaines, qui est la seule institution qui tient le coup, qui a tenu le coup vis-à-vis des barbares, etc., elle se dit... Non, attendez, on n'est plus là pour faire des élus, on est là pour changer le monde et faire que ce monde devienne plus humain, plus vivable. Donc c'est toute la grande réforme dont vous parlez. Ce sera la distinction entre le temporel et le spirituel. Ce sera la création du droit. On n'imagine pas ce que ça a été, mais... ramasser tous les droits barbares, romains, chrétiens, et en faire un corpus de droits sur lesquels nous vivons encore largement, c'était une avance considérable.
C'est aussi le moment de ce que vous appelez une révolution industrielle. Où se passe-t-elle ?
Alors là, vous touchez quelque chose qui me tient parfaitement à cœur, et qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la science et la technique, depuis l'Antiquité, étaient profondément séparées. Les scientifiques, c'était l'élite de la société, et puis il y avait des techniciens, il y avait des artisans, il y avait qui n'étaient pas sans créer énormément de choses, mais ils les créaient dans le monde du bas, le monde sublunaire, alors que les scientifiques pensaient le monde où se trouvait justement l'intelligibilité de la divinité. Et voilà que d'un seul coup, les moines vont relier la science à la technique. C'est-à-dire que ces moines qui étaient des hommes lettrés, pour parler comme on le disait à l'époque, vont s'adonner au travail manuel. Et c'est la grande réforme de Saint-Benoît de Nursie, des bénédictins, qui rend obligatoire le travail manuel à côté du travail spirituel et de la prière. L'un devant soutenir l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument phénoménal, qui est l'un des fondements de la civilisation européenne telle que nous la vivons. Si vous imaginez, je fais bref, qu'il y a 2600 monastères qui couvrent, en 200 ans, qui couvrent l'Europe, vous rendez compte, l'unité spirituelle qui se crée à ce moment-là, et l'unité, j'allais dire, géographique, puisque que vous soyez à Prague, encore une fois, ou en Écosse, vous parlez la même chose, vous intéressez au même domaine, et puisqu'il faut faire vivre ces monastères, il faut développer des techniques. Et les développer suffisamment correctement pour que vous ne soyez pas obligé d'amputer toute votre vie spirituelle pour faire vivre le monastère d'un point de vue pratique. Donc il y a une incitation à l'innovation technique qui est absolument formidable et qu'on va... C'est pas moi qui le dis, hein, beaucoup d'historiens aujourd'hui reprennent ce terme même de les lumières des moines. Et puis on le voit. En France, vous savez, en 100 ans, 80 cathédrales qui, chacune, contient des innovations techniques absolument extraordinaires et différentes les unes des autres. Et lorsqu'on s'intéresse effectivement à l'intérieur de ces cathédrales, à tous les progrès qu'on y a fait, c'est effectivement un moment absolument remarquable qui va être encore amplifié par la maîtrise du temps et le fait qu'on invente les horloges, qu'on les rend publiques. C'est pas rien.
Alors, nous allons poursuivre notre avancée dans le temps en arrivant à la Renaissance à ce moment-là. On ne parle plus de chrétienté en raison des divisions religieuses et des découvertes multiples. La chrétienté devient l'Europe et c'est à ce moment-là que l'Europe prend conscience d'une mission universelle qu'elle se donne. C'est un moment fondateur pour vous, toujours dans cette idée du progrès.
Oui, alors c'est... Tout à fait, vous avez raison. Le problème étant, la question étant que apparaissent à ce moment-là les sciences expérimentales. Apparaît à ce moment-là le fait que le monde tel qu'on le voyait, ce monde-là est mort. Cette distinction entre le monde supralunaire et le monde sublunaire, c'est fini. C'est le même monde. L'univers est un. C'est phénoménal, c'est absolument phénoménal. Et à partir de là, eh bien, les expériences que l'on se refusait à faire, parce qu'elles appartenaient au monde sublunaire, donc elles ne pouvaient pas refléter l'intelligence du monde supralunaire, eh bien, ces expériences deviennent des modèles pour progresser dans l'intelligibilité du monde. Et bien sûr... Le nom qui revient très fort là-dessus, c'est celui de Galilée, avec la naissance véritablement de la science mécanique.
Et une nouvelle figure, en tout cas, se développe, c'est celle du savant.
Alors, vous avez raison. Dans l'époque antérieure, celui qui a fait pénétrer la technique dans la société, c'était l'artisan. Et maintenant, la science se développe et il va falloir petit à petit créer un nouvel élément qui est le savant. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Galilée, je parle aussi, je pense, de l'affaire Galilée, parce que c'est au moment où on vient de réunir la science et la technique, on brise l'unité de la raison et de la foi sur l'affaire Galilée. Donc c'est de ce point de vue-là une affaire considérable du point de vue de notre civilisation. Et puis les sciences expérimentales se développant, les hommes vont se rendre compte qu'ils sont de plus en plus capables de rentrer dans l'intelligence du monde. Et certains vont se dire, on n'a plus besoin de Dieu. Et ça va être la grande affaire des Lumières, où l'homme va se dire, au fond, nous pouvons trouver en nous-mêmes la plénitude de notre humanité. Et deuxièmement, puisque tous les hommes, a priori, sont dotés d'intelligence, etc., il suffit de leur faire découvrir leur capacité intellectuelle pour les amener à un niveau d'humanisation supérieur. Et c'est la grande idée, la grande formule que j'aime beaucoup de Condorcet, la liberté par le savoir. Dans la liberté, vous mettez toute cette humanisation, justement. Le problème, s'il y en a un, c'est que les Lumières retirent l'idée qu'au fond, bah, puisqu'on est les premiers, nous, les Anglais, nous, les Français, à avoir trouvé ce filon d'humanisation, il faut en faire profiter le monde entier. Donc il crée un universalisme des Lumières qui va les amener colonisation, etc., et tous les problèmes qui s'en suivront.
C'est un moment important parce que c'est une époque de confiance, de certitude, aussi une époque, oui, paradoxalement, de foi même, on pourrait dire.
Bien sûr, oui, je crois qu'on peut le dire. Alors, il ne faut pas le leur dire à eux, parce que si vous disiez aux gens des Lumières qu'ils ont une foi, ils seraient très mécontents. Ils opposent la croyance à la certitude de la science. Et leur certitude est telle qu'elle ne relève pas de la foi. Et elle ne supporte pas, d'ailleurs, qu'on vienne opposer à la vérité qu'ils sont en train de dévoiler par la science, une vérité révélée par je ne sais quelle divinité. Donc il va y avoir cette opposition qui va devenir de plus en plus virulente et qui conduira d'ailleurs à des catastrophes à certains moments. On le verra plus tard.
Et justement, ces catastrophes vont introduire des doutes, notamment par rapport à cette idée de progrès et à la place de la science, des savoirs dans notre civilisation européenne.
Ah oui, mais...
À partir de quand est-ce que vous les voyez apparaître, ces doutes ?
Vous parliez tout à l'heure des technologies. Alors, les technologies... Contrairement à ce qu'on peut penser, elles apparaissent, à mon sens, très tard. Et j'en décris l'avènement dans la fin du 19e siècle, au début du 20e. Vous voyez que on est loin du néolithique. Et c'est quoi une technologie ? C'est précisément un ensemble cohérent de connaissances théoriques et pratiques qui combinent de la science, des techniques, du savoir-faire pour parvenir à un objet ou à un effet préconçu. Ah oui, mais alors là, on n'est plus du tout dans le cheminement antérieur. C'est-à-dire qu'on est capable de réunir toutes sortes de sciences pour remplir un objectif. Comment le dire ? Bon, le dire en prenant l'exemple que j'ai retenu pour définir la technologie. Lorsque, en 1870-1880, on s'affole en Europe parce qu'on est assuré du fait qu'on va manquer d'engrais azotés. D'où viennent les engrais azotés ? Ils viennent des guano du Chili, c'est-à-dire de déjections animales qui pourrissent dans une quantité absolument phénoménale. Mais on est en train de les épuiser parce qu'on tire, là-dessus. Et donc on arrive déjà à cette notion de ressources naturelles qui seront un jour épuisées. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Crookes, un grand savant, les tubes de Crookes, les rayons X, etc., qui dit, mais bon sang, si les chimistes étaient capables de faire de l'ammoniac à partir de l'azote de l'air, on n'aurait plus de problème. Et ça va être une épopée, véritablement. C'est très difficile, pour des raisons qui sont explicables en termes de chimie. Il faut des pressions énormes, il faut des températures non négligeables, et il faut un équilibre entre les températures et les pressions qui soit rigoureusement respecté. Il y a un grand Français qui se lance là-dedans, Monsieur Le Châtelier. Et il arrive presque à un résultat. Mais il y a une explosion dans son laboratoire qui tue un de ses collaborateurs et il arrête tout. Et puis il va y avoir Monsieur Haber, Fritz Haber, qui lui va poursuivre cette affaire génialement du point de vue technique, puis avec l'appui de grandes industries allemandes, il aura l'accès à toutes sortes de problèmes non résolus encore, qui étaient par exemple le fait que les métaux, à partir de 400 degrés, certains aciers étaient perméables à l'hydrogène. Bon, passons sur les détails. Il faut une concentration de connaissances scientifiques multiples, de techniques multiples, de savoir-faire multiples pour arriver à quoi ? À faire l'ammoniac. En 1913, et on considère que M. Haber est un bienfaiteur de l'humanité, à juste titre, puisqu'il a fait du pain, dit-on, avec de l'air et de l'eau. Vous voyez l'avancée. On n'est plus en train de subir la nature, on est en train de la dompter et de s'en servir. Je referme la parenthèse. Mais voilà, les technologies, c'est un moment tout à fait particulier et qui confère une puissance aux sociétés qui était du jamais vu antérieurement. Et c'est là-dessus que nous allons vivre, et ça va renforcer l'idée que qu'on est les plus beaux, les plus forts, et que le monde n'a qu'à nous suivre.
Justement, nous y sommes à ce mot de puissance qui est dans le titre de votre livre. Pour vous, cette puissance était un moyen à l'origine, et il est devenu une fin.
Eh oui. Et pourquoi ? D'abord parce que cette magnifique histoire de cette puissance en croissance sans fin a provoqué d'abord des désillusions et ensuite des naufrages. Les désillusions, les gens des Lumières disent « Attendez, mais vous allez voir, le progrès, ça va nous améliorer considérablement. Vous allez voir, demain sera plus beau qu'aujourd'hui. » Magnifique idée. Le problème, c'est que lorsqu'on regarde les conditions sociales, économiques et diverses des sociétés européennes du 19e siècle, c'est la misère sordide, etc. Donc les gens sont fondés à se dire « Mais enfin, votre progrès technique, il n'est pas en train de nous amener à des horizons radieux. » Et puis après, il y a ce que j'appelle les vrais naufrages. Bon, j'ai cité M. Haber, Fritz Haber, comme bienfaiteur de l'humanité. Il sera prix Nobel en 1918 pour la synthèse de l'ammoniac. Mais en 1919, il sera criminel de guerre pour avoir été le porteur, le concepteur, le soutien de toute la conception de la guerre chimique du grand quartier général allemand, et qui a amené à la guerre des gaz pendant 3 ans. Donc il y a des désillusions, et puis il va y avoir des naufrages, parce que la liberté par le savoir, ça supposait que des sociétés évoluées, cultivées, pleines de sciences, allaient jouer dans le sens d'une humanisation accrue. Et la société allemande est une société parmi les plus brillantes. Et ça donne le nazisme. Et la société européenne était parmi les plus brillantes. Ça conduit au communisme. Et avec les atrocités, enfin, c'est pas la peine d'y revenir, c'est tellement abominable qu'on est obligé de chercher ces mots. Donc, cette puissance a conduit à une impasse. Et les gens qui étaient sûrs de ce lien, de ce déterminisme entre le progrès scientifique et technique et le progrès humain, Il mesure que ce déterminisme est profondément faux. Par conséquent, vous aviez une raison d'être qui était celle des Lumières, qui en prend un seul coup. Quand dans le même temps, la chrétienté, etc., qui a été pas mal étouffée, en prend un coup aussi, où allons-nous ? Où est le sens que nous donnons à cette magnifique évolution de nos sociétés ? Et donc là, le doute, c'est plus que du doute. Notre civilisation perd effectivement, est orpheline de sens. Et c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le progrès scientifique et technique, qui était le moyen d'un progrès humain et d'une humanisation, ce moyen devient la fin. Et au fond, la puissance que l'on recherche, c'est une puissance technologique toujours accrue. Et là, j'allais dire que la fin de cette évolution, c'est une puissance sans fin. Et donc ça, c'est quand même une impasse énorme.
C'est la situation actuelle que vous décrivez de cette ère technologique que vous faites commencer à la fin du 19e siècle, mais nous y sommes toujours.
Bien sûr. Et c'est les questions qui doivent nous préoccuper aujourd'hui. Sommes-nous capables de redonner un sens ? Sommes-nous capables de réinsuffler dans nos sociétés des raisons d'être qui l'attirent vers le haut ? Sommes-nous capables de donner à notre puissance des limites ? Et au fond, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que X milliers d'années après la révolution néolithique sur laquelle on a vécu longtemps, on refusait de subir les contraintes de la nature. On en est aujourd'hui à savoir s'il ne faudrait pas refuser de subir notre propre puissance, c'est-à-dire nous donner des limites à notre propre puissance. C'est autrement compliqué que de lutter contre la nature, parce que ça, c'est un combat de l'homme contre l'homme. Mais c'est le même combat pour sa liberté. Ou on subit et on n'est plus libre, ou on se lève et on refuse de subir. On en est là, voilà.
C'est une situation inédite dans l'histoire de...
Absolument.
De l'humanité. Mais donner des limites, ce n'est pas nécessairement se mettre en retrait du progrès. Il y a une ligne de crête qui est assez difficile à tenir.
Bien, mais c'est bien pour ça que nos sociétés aujourd'hui sont dans des difficultés. C'est qu'il y a à la fois des éléments qui sont prêts à tout, y compris à changer la nature de l'homme, y compris à modifier la reproduction humaine, sans limite aucune. Mais pour imposer des limites, il faut avoir des références. Pour imposer des limites, il faut que dans les raisons d'être des sociétés, on se dise par exemple, mais non, je ne vais pas faire des postes humains où on va greffer des ordinateurs sur votre cerveau pour que vous y stockiez vos émotions, vos souvenirs, etc. C'est difficile parce que dans toute cette histoire, il y a très peu d'exemples où les hommes ont refusé de faire ce qu'ils savaient faire. Il y en a très peu. Il y en a un que je cite toujours, mais peut-être parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, qui est au Japon. Les Japonais vivaient bien enfermés sur leur île et très attentifs à ce qu'on ne vienne pas les perturber. Donc il y avait juste un petit port où arrivaient les Portugais. Ils ont chassé les Portugais qui ont été remplacés par les Hollandais. Et les Portugais leur avaient appris et leur avaient fait découvrir les fusils, les mousquets. Et les Japonais étaient rentrés dans la fabrication de ces armes, les avaient largement utilisés jusqu'au moment où les samouraïs qui avaient pris le pouvoir ont dit non. Moi, je veux me battre en regardant mon ennemi dans les yeux. Interdiction absolue des fusils, de toute production, arrêt des productions, etc. Ce qui donne quand même une indication sur la force que cette société japonaise donnait à ce qui était pour elle une référence, une raison d'être forte. Est-ce que nous avons nos samouraïs aujourd'hui ? C'est une question.
Et comment faire dans une société mondialisée ?
Ah, eh bien, il faut, j'aime pas dire il faut, je pense que il est important qu'une civilisation comme la nôtre réaffirme ses raisons d'être sur la dignité humaine, sur la liberté humaine, et s'attache à les respecter et à faire en sorte que les limites qu'elle se donnera les respectent. Mais, bonne question, les autres, ils vont faire peut-être autrement. Je commence à avoir un lourd passé chinois et j'avais antérieurement un lourd passé soviétique. Ce qui me frappe chez l'empereur chinois d'aujourd'hui, M. Xi Jinping, il a une phrase terrible. Il dit « Mettez-vous bien dans la tête que l'individu n'existe pas. Seules les masses avancent. » Alors là, on voit quand même un fossé avec la civilisation européenne. Comment en sortir ? Eh bien, je crois qu'il faut que l'Europe, on dira ce qu'est l'Europe, ce que devrait être l'Europe, il faut que notre civilisation européenne maintienne ses capacités à participer à cet élan de technologie, etc., à toutes ces améliorations qui sont encore à faire et qu'on ne manquera pas de faire. Et il faut, parce qu'il les maîtrise, qu'il puisse intervenir dans les choix de civilisation auxquels ces avancées conduiront. Mais pour pouvoir influencer des décisions mondiales, qui est votre question, on revient à une certaine puissance. Lorsque, au XIXe siècle, on s'est senti pousser des ailes parce qu'on était les plus beaux, les plus forts, et qu'on donnait le « là » à l'évolution des sociétés humaines, il y avait des puissances bien réelles. L'Angleterre, la France, on ne parlait que d'elles, ou l'Allemagne plus tard. Elles ont même fait quelques excès de domination. Mais elles avaient la capacité d'imposer leurs choix et de faire en sorte que leurs choix de civilisation soient respectés. Est-ce qu'on a ça aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, on a une grande capacité encore, en Europe, à rester dans la course du développement technologique. Et c'est essentiel. C'est essentiel. Et quand je dis technologique, il faut bien revenir à ma définition. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus faire de la science fondamentale. Au contraire. Mais je referme la parenthèse. Mais une fois qu'on a maintenu cette capacité technologique, où serons-nous, où sommes-nous au moment des choix qui se feront sur les avancées technologiques ? Alors j'ai repris une image que j'aime bien, parce que j'aime bien les vitraux. Vous allez à Chartres, vous êtes un jour de soleil, c'est une féerie. Et un vitrail, ce qui est important, ce n'est pas le plomb, ni les structures en pierre qui soutiennent le verre. C'est le rayonnement. Une civilisation, sa force, c'est son rayonnement. Mais pour qu'elle rayonne, il faut des structures en plomb, il faut des structures en pierre, sinon tout s'effondre. Sommes-nous en train, en Europe aujourd'hui, de consolider nos structures en plomb et en pierre pour assurer la solidité du rayonnement de notre civilisation ? Eh bien, je pense que non, mais que rien n'est perdu. Il va falloir s'y mettre. Je pense, je le dis d'ailleurs, l'Union européenne aujourd'hui n'est pas cette puissance Elle ne s'est pas structurée pour le devenir. C'est un hypermarché. On n'a jamais vu un hypermarché être le support d'une civilisation.
Qui doit fixer ses limites, par exemple, sur l'intelligence artificielle dont vous parlez beaucoup ? Est-ce que ce sont les politiques ? Est-ce que cela se fait au niveau des chercheurs, des entreprises, des citoyens ?
Je ne mettrai pas les chercheurs en premier. Les chercheurs, leur métier, c'est de pousser, hein, et de faire avancer. Mais c'est une question de société, c'est-à-dire c'est à la fois vous et moi et les politiques. C'est inadmissible à mes yeux de voir que des sociétés privées, les GAFA pour ne parler que d'elles, se fichent absolument des États. Se fichent absolument des élus. Pour le moment, de temps en temps, on dit « Ah oui, ça y est, ils ont pris un gros coup sur les doigts, ils ont pris X centaines de millions de dollars d'amende. » Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Donc, il va bien falloir trouver le moyen, par les États et par les sociétés qui les soutiennent, il va falloir trouver le moyen, si on le veut, de fixer des limites.
Votre livre se termine d'ailleurs par le mot « espérance » avec cette phrase « Les Européens se souviendront alors que le désespoir surmonté est la forme la plus haute de l'espérance ». Un grand merci de votre venue. Je rappelle le titre de votre livre « La puissance et la peur, la civilisation européenne, un renouveau est-il encore possible ?» Et c'est aux éditions du Cerf. Merci François Guinaud.